présentation de nos deux intervenants. Ce sera Monsieur Turkmen qui commencera. Monsieur Turkmen est né en 1927. Il a un parcours de diplomate essentiellement. De 1964 à 1968, il a été directeur général et assistant sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères. De 1968 à 1972, il a été ambassadeur en Grèce. De 1972 à 1975, il a été ambassadeur en Union soviétique. De 1975 à 1978, il a été représentant permanent aux Nations unies. En 1980-83, il a été ministre des Affaires étrangères. 1988-91, il a été ambassadeur en France, ce qui peut nous toucher beaucoup. Et disons, depuis 1989 jusqu'à maintenant, il est chroniqueur au journal Hurriyet. Il est membre de la Fondation pour les études des politiques étrangères et de la défense dans les Balkans et le Moyen-Orient. Donc nous avons là, comme d'ailleurs avec M. Vassiliou, un hôte de marque et un hôte particulièrement qualifié pour nous parler de la question chypriote du point de vue d'un diplomate chevronné qui a connu à peu près tous les pays importants et traversé beaucoup de situations sensibles. À ma droite se trouve M. Georges Vassiliou, je dirais d'égale importance que M. Turkmen, mais je ne fais pas de hiérarchie de titre, puisqu'il est ancien président de la République de Chypre. Là encore, c'est un hôte de marque qui nous honore. Il est né en 1931 à Famagouste, à Chypre. Il a étudié d'abord la médecine aux universités de Genève et de Vienne, puis l'économie à l'université de Budapest. Il est devenu docteur en économie de l'Université de Budapest. Ensuite, il a une carrière de chercheur, d'économiste, y compris d'économiste dans le secteur privé, si j'en crois sa biographie, dans les années 1960. De 1988, je ne vous donne pas le détail, parce qu'avec des personnes de ce genre, nous passerions tout le temps de la conférence à lire la biographie. De 1988 à 1993, il a été président de la République de Chypre. De 1995 à 2000, il a été président de l'Institut mondial pour la recherche en développement économique des Nations unies à Helsinki, donc très haut fonctionnaire international. De 96 à 99, il a été membre du Parlement chypriote et, point extrêmement important pour la question qui nous concerne ce soir, de 1998 à 2003, il a été responsable de l'équipe de négociation pour l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. Voilà, donc je termine cette présentation. Je passe la parole tout de suite à M. Turkmen, qui parlera pendant le temps dont il a besoin. Et ensuite, ce sera M. Vassiliou. Et ensuite, ce sera le temps pour vos questions. Voilà, merci.
Merci, M. le Président. Je suis très heureux de cette opportunité. Oui, je suis très heureux de cette opportunité qui m'a été présentée d'exprimer mes vues sur la question de Chypre. Ce sont des vues naturellement personnelles parce que en ce moment-là, je n'ai aucune position officielle. Le problème de Chypre a occupé et exaspéré beaucoup de diplomatie. Pas seulement la diplomatie turque, la diplomatie grecque, la diplomatie turque-chypriote, diplomatie grecque-chypriote, mais également les autres diplomaties. Je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé il y a un certain nombre d'années. J'étais ambassadeur, j'étais représentant permanent aux Nations Unies, et pendant la session annuelle, il y avait notre ministre des Affaires étrangères qui était venu à New York, et le secrétaire d'État américain à l'époque était Kissinger. Alors Kissinger est venu visiter notre ministre. Ils ont discuté de quoi ? Bien sûr, de Chypre, des relations entre la Turquie et la Grèce. Et ensuite, après l'entrevue, j'ai raccompagné M. Kissinger jusqu'à sa voiture. Et il disait à ses collaborateurs, « Voilà, maintenant j'ai vu le ministre des Affaires étrangères de Turquie. Je vais voir le ministre maintenant des Affaires étrangères de la Grèce. » Puis le ministre grec-chypriote, et puis j'ai un rendez-vous avec mon psychiatre. Alors, comme je le disais, ça a exaspéré beaucoup de personnes, et ça continue malheureusement à le faire. Alors, le thème de ma présentation est « Où en sommes-nous et pourquoi ? Où allons-nous ? » Son histoire, sa géographie et la composition de sa population ont déterminé le sort dramatique de Chypre. Son emplacement géopolitique en Méditerranée orientale a incité les grandes puissances et les puissances régionales à vouloir dominer cette île. Après avoir subi plusieurs invasions et dominations, Chypre fut conquise par l'Empire ottoman à la fin du XVIe siècle et resta sous la souveraineté turque jusqu'à la fin du XIXe siècle, date à laquelle l'Empire ottoman, gravement affaibli à la suite d'une guerre contre la Russie, a dû céder l'administration de l'île à la Grande-Bretagne en gardant une souveraineté tout à fait symbolique. Avec le traité de Lausanne en 1923, Chypre devint officiellement une colonie britannique. C'est à partir de cette date qu'apparaissent les conflits et les tensions entre les deux communautés, turques et grecques, largement attisées par la politique célèbre de « diviser pour régner ». Le processus de décolonisation entamé à la fin de la Seconde Guerre mondiale devait inévitablement affecter Chypre également. Mais les Grecs chypriotes, au lieu de militer pour un statut d'indépendance en solidarité avec les Turcs chypriotes, déclenchèrent une virulente campagne en faveur de l'énosis, c'est-à-dire de l'union avec la Grèce. Cette politique devait fatalement mener à de violents et parfois sanglants affrontements entre les deux communautés. Pour sa part, la Turquie ne pouvait que s'opposer à l'énosis, qui non seulement condamnerait les Turcs de Chypre à un statut de minorité opprimée, mais bouleverserait également l'équilibre si péniblement établi entre la Turquie et la Grèce avec le traité de Lausanne. En 1959, un compromis entre la Turquie et la Grèce aboutit à un traité octroyant un nouveau statut à l'île. Chypre devenait un pays indépendant et bicommunal, doté d'une constitution qui était placée sous la garantie de la Turquie, de la Grande-Bretagne et de la Grèce. En vertu de cette constitution, les deux communautés se partageaient les responsabilités exécutives, législatives et judiciaires. Mais cette solution ne fut pas de longue durée. En 1963, le président Makarios entreprit d'amender la constitution dans le but de réduire substantiellement les droits accordés à la communauté turque. Cette crise politique dégénéra rapidement en un violent conflit intercommunautaire précipité par des attaques armées contre les membres de la communauté turque. Les Turcs de Chypre n'avaient plus d'autre choix que de revendiquer l'intervention de la Turquie. La période 1963-74 a été marquée par des crises successives dans lesquelles à plusieurs reprises une guerre entre la Turquie et la Grèce a été évitée in extremis. La crise survenue en 1967 fut particulièrement grave et se termina par l'évacuation de près de 12 000 officiers et soldats grecs qui avaient été expédiés par la junte grecque à Chypre dans le cadre de sa politique militante en faveur de l'énosis. On aurait pu espérer à cette date que la junte militaire, qui s'était emparée du pouvoir en 1967, éviterait une nouvelle confrontation avec la Turquie. Ce ne fut pas le cas. Un coup au sein de la junte raviva l'obsession de l'énosis. Cette fois, les nouveaux cadres de la junte et leurs complices parmi les Grecs chypriotes se lancèrent en 1974 dans une opération encore plus audacieuse en organisant un attentat contre l'archevêque Makarios qui réussit au dernier moment à s'évader et à quitter l'île. S'adressant quelques jours plus tard au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, l'archevêque ne manqua pas de dénoncer ouvertement l'invasion de la Grèce. C'est à la suite de ce fait accompli que la Turquie, se prévalant de ses droits en vertu des traités de 1960 qui garantissaient le statut de Chypre, a dû intervenir militairement pour empêcher à la fois l'énosis et le massacre de la population turque de Chypre. Dès lors, la situation de facto dans l'île changea de fond en comble. Une frontière devait désormais séparer le nord de l'île du sud, ce qui inévitablement mena à une concentration des Turcs au nord et des Grecs au sud. Toute solution éventuelle devait donc tenir compte de cette réalité. Il apparut très tôt que désormais, les Turcs et les Grecs ne pouvaient vivre ensemble qu'au sein d'un système fédéral. Le leader turc Rauf Denktaş et l'archevêque Makarios ne tardèrent pas d'ailleurs à se mettre d'accord en 1977 sur le principe d'une fédération bizonale et bicommunautaire. Les Nations Unies ont joué dès le début un rôle prépondérant dans le problème de Chypre. Une résolution adoptée déjà en 1964 par le Conseil de sécurité de l'ONU mandatait le secrétaire général d'une mission de bons offices et décidait d'envoyer à Lille une force chargée de contribuer au maintien de la paix entre les deux communautés. Cette force de l'ONU est toujours là, avec néanmoins un effectif beaucoup plus réduit. Depuis 1974, les secrétaires généraux de l'ONU se sont efforcés de trouver un compromis entre les parties, toujours sur la base des accords Denktaş-Makarios. Pérez de Cuellar en 1985-86 et Boutros-Ghali en 1992 ont soumis des projets dont les paramètres n'étaient pas très différents. Boutros-Ghali en particulier préconisait une délimitation territoriale qui accorderait à la composante turque de la future fédération un peu plus de 28% de la superficie totale de l'île. Une très large autonomie aux deux entités et des pouvoirs limités au gouvernement fédéral. Également, une participation équilibrée des Turcs et des Grecs au gouvernement central. Une législature bicamérale dans laquelle la chambre supérieure serait composée d'un nombre égal de Turcs et de Grecs, une chambre inférieure qui reflèterait la différence numérique entre les deux populations, et une magistrature suprême où siégerait un nombre égal des représentants des deux communautés. Il était clair depuis 1974 que la résolution du conflit requérait inéluctablement un accord sur quatre questions primordiales: système gouvernemental, sécurité, frontières et immobilier. Concernant le système gouvernemental, un retour à la constitution de 1960, qui avait créé une sorte d'État unitaire bicommunal, n'était plus envisageable. Les événements de 1974 avaient modifié de fond en comble les données du problème et les deux parties n'avaient pas tardé à reconnaître que le nouveau système devait être fédéral et bizonal. Il n'en reste pas moins que chaque partie avait une vision différente de ce système. Les Grecs préconisant un État central doté de pouvoirs étendus et les Turcs favorisant un gouvernement central plutôt faible et l'octroi de pouvoirs substantiels aux deux composantes de la fédération. Le système présidentiel était préféré par les deux parties, mais les Turcs insistaient pour une rotation de la présidence et pour des mesures qui ne permettraient pas aux Grecs de leur imposer leur volonté par des faits accomplis, comme ce fut le cas en 1963. L'importance de la question de la sécurité avait déjà été reconnue lors de la conclusion des traités de 1960. Le traité de garantie signé par la Turquie, la Grèce et le Royaume-Uni les engageait à sauvegarder l'indépendance, la sécurité et la constitution, à se consulter si des développements exigeant leur intervention se produisaient et d'agir conjointement s'ils pouvaient se mettre d'accord sur une action commune. Si une action commune s'avérait impossible, chaque partie avait le droit d'intervenir unilatéralement. Le traité d'alliance, également signé en 1960, autorisait le stationnement dans l'île d'un contingent turc et d'un contingent grec à faibles effectifs. Ce traité prévoyait également une garde nationale chypriote qui serait composée de Turcs et de Grecs. Cette garde nationale se transforma plus tard en une force composée exclusivement de Grecs après les événements de 1963. Ses effectifs s'élèvent à présent à 17 000 et elle dispose de plus de chars d'assaut que l'armée britannique. Il faudrait aussi noter qu'en 1997, le gouvernement grec chypriote du Sud avait signé avec la Russie un accord qui prévoyait la livraison de missiles surface-air capables d'atteindre les avions turcs qui décollaient des bases aériennes situées au sud du pays. Ceux qui trouvent excessif le nombre de troupes turques stationnées à Chypre depuis 1974 doivent également prendre en considération l'ampleur des programmes militaires grec-chypriotes. La question des frontières. Quand les hostilités cessèrent en 1974, les Turcs chypriotes contrôlaient un peu plus de 36% du territoire de la République de Chypre de 1960 et les Grecs chypriotes un peu plus de 63% de ce territoire. Comme je l'ai déjà mentionné, la série d'idées de Boutros Ghali proposait qu'en pourcentage un peu plus de 28% aux Turcs chypriotes et un peu moins de 72% aux Grecs chypriotes. Ni les Turcs ni les Grecs n'avaient accepté ces propositions. Mais étant donné que le Conseil de sécurité avait endossé la série d'idées de Ghali, les délimitations frontalières qu'elle contenait devaient être plus ou moins reprises dans les initiatives ultérieures. Question des immobiliers. La question des immobiliers est d'une complexité énorme. En 1974, un échange de population s'était en fait produit à Chypre. Les Grecs chypriotes résidant au nord émigrant vers le sud et les Turcs chypriotes résidant au sud émigrant vers le nord. Le nombre des émigrants grecs étant bien entendu supérieur au nombre des émigrants turcs. Les Nations Unies estiment qu'à peu près la moitié de la population de Chypre a dû abandonner ses immobiliers. La question a été rendue encore plus difficile par la demande grecque de permettre à tous les propriétaires des immobiliers situés au nord de récupérer leurs propriétés et de s'y installer, ce qui aurait évidemment obstrué fatalement l'application du concept de la bisonnalité. Il fallait donc trouver une formule qui, tout en respectant les droits des Grecs chypriotes, ne modifiait pas d'une façon radicale l'équation démographique au nord. La question de l'accession de Chypre à l'Union européenne a ajouté une nouvelle dimension très critique au problème. La partie turque n'avait pas manqué de se rendre compte très tôt qu'une adhésion du sud de Chypre à l'île avant un règlement rendrait extrêmement difficile, sinon impossible, toute solution négociée et avait insisté pour que l'accession ait lieu après la conclusion d'un accord ouvrant la voie à la réunification de l'île. Mais un facteur important militait en faveur d'une accession unilatérale du sud à l'Union européenne. La presque certitude que la Grèce était déterminée à bloquer les candidatures des autres pays européens au cas où l'accession unilatérale du sud de Chypre serait rejetée. C'est en 1999 que débuta un processus marqué par de nombreuses vicissitudes qui devait se prolonger jusqu'à la date fatidique du 24 avril 2004, quand la cinquième et dernière version du plan Annan, soumise à des référendums séparés au nord et au sud, fut acceptée par les Turcs mais rejetée par les Grecs. L'accession unilatérale du sud de Chypre une semaine plus tard à l'Union européenne devait inévitablement affecter négativement le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et en même temps toute nouvelle tentative de régler le problème de Chypre. Les principes directeurs de ce long processus avaient été élaborés dans une résolution du Conseil de sécurité adoptée en juin 1999. Cette résolution demandait aux deux parties de s'engager de bonne foi à poursuivre les négociations jusqu'à ce qu'un règlement soit trouvé en tenant compte des résolutions permanentes de l'ONU et des traités. Du côté de l'Union européenne, les choses évoluaient également en 1999. Au mois de décembre, le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement décidait de reconnaître la Turquie comme un État candidat destiné à accéder à l'Union européenne sur la base des mêmes critères appliqués aux autres États candidats. Peut-être qu'il faudrait rappeler ici, dans une parenthèse, à cet égard, que le point de vue selon lequel la Turquie ne peut pas devenir membre à part entière de l'Union européenne est incontestablement en contradiction avec les multiples engagements de l'Union européenne, comme le prouve déjà amplement le libellé du document adopté au sommet de Helsinki en décembre 1999. Quant à Chypre, le sommet de Helsinki décidait, et je cite, « un règlement faciliterait l'accession de Chypre à l'Union européenne. Si à la date où les négociations d'accession seraient complétées, les parties n'avaient pas encore réussi à se mettre d'accord sur un règlement, la décision sur l'accession serait prise sans que cela constitue une condition préalable. À ce sujet, le Conseil tiendrait compte de tous les facteurs pertinents. Fin de citation. Ce texte équivoque était loin de satisfaire les Turcs de Chypre et la Turquie. Mais il était clair que c'était dans l'intérêt de la partie turque d'essayer d'arriver à une solution avant la signature du traité d'accession par la partie grecque de Chypre. On ne peut pas dire que le leadership turc-chypriote et le gouvernement turc avaient à cette époque perçu clairement l'importance cruciale du timing. L'effort le plus sérieux dans la recherche d'une solution a été mené par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, entre 2002 et 2004. Au cours de cette période, Annan, soutenu par l'Union européenne et les États-Unis, a présenté successivement 5 plans. On ne peut pas, dans le cadre de ce débat, analyser en détail tous ces plans, dont les textes tiennent des centaines de pages, sans compter les nombreuses annexes. Le premier plan Annan a été soumis aux deux parties chypriotes et aux pays garanteurs Turquie, Grèce et Royaume-Uni en novembre 2002. Il établissait un État souverain possédant une personnalité légale et internationale, composé de deux États, l'un turc, l'autre grec. L'État central exercerait les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et les États constituants tous les pouvoirs non attribués à l'État central. L'État central serait responsable des affaires étrangères, des relations avec l'Union européenne, de la Banque centrale, des finances, de l'État central, de la politique d'aviation et de navigation. Le système exécutif était inspiré du modèle suisse. Le conseil exécutif serait composé de 4 chypriotes grecs et de 2 chypriotes turcs choisis par leur État constituant. Aucune décision ne pourrait être prise sans le consentement d'au moins un membre de la représentation turque ou grecque. Le président et le vice-président seraient désignés par le conseil et la présidence serait assumée à tour de rôle entre les membres turcs et grecs. Le législatif serait composé de 2 chambres, la chambre supérieure ayant un nombre égal de membres turcs et grecs nommés par les législatifs des États constituants, et la chambre inférieure élue au scrutin universel où les Grecs seraient en majorité. La Cour suprême où siégeraient 3 juges turcs, 3 juges turcs et 3 juges grecs comprendraient également 3 membres non chypriotes dans le but de prévenir une impasse. En matière de sécurité, le traité de garantie était maintenu. Le traité d'alliance stipulait qu'un nombre égal de troupes turques et grecques seraient déployées dans l'île. Toutes les forces chypriotes seraient démobilisées et leur armement transporté en dehors de l'île. L'importation d'armes serait interdite. Une force des Nations Unies serait déployée dans toute l'île indéfiniment et sa mission terminée seulement par un accord commun. Concernant la délimitation territoriale, le plan prévoyait la cession par la partie turque à la partie grecque d'une superficie correspondant à un peu moins de 9% de la superficie de l'île. Quant à la question des immobiliers, une administration spéciale était chargée des compensations mutuelles. Mais le plan Annan, à la différence des plans antérieurs, ne limitait pas le droit de restitution, mais le droit de résidence en vue d'empêcher une émigration très forte des Grecs vers le Nord, ce qui éventuellement aurait dilué substantiellement le caractère turc du Nord. Le plan déclarait catégoriquement qu'une fois réunifiée, l'île accéderait à l'Union européenne. La formulation de la question à poser aux Turcs et aux Grecs séparément dans le texte du référendum rendait impossible de faire une distinction entre l'approbation de la solution proposée et l'accession de Chypre à l'Union européenne. Un vote négatif des Grecs chypriotes risquait donc de mettre définitivement en danger la perspective d'une adhésion unilatérale en excluant les Turcs. C'est la raison pour laquelle les Grecs chypriotes, qui étaient contre le plan Annan, appelaient de leur vœu un rejet du plan par la partie turque. Le plan Annan ayant suscité des objections de la part et des Turcs et des Grecs, le secrétaire général des Nations Unies modifia certaines modalités et soumit le plan Annan II juste à la veille du sommet de l'Union européenne en mi-décembre 2002. La partie grecque n'a pas eu à se prononcer car la partie turque fut la première à indiquer son rejet du plan Annan II. La réunion de Copenhague constituait une étape importante. En effet, la négociation d'accession avec Chypre du Sud était déjà terminée. Le Conseil de l'Union européenne, tout en rappelant cette évolution, notait quand même sa préférence pour une accession à l'Union européenne d'une Chypre réunifiée. La dernière chance pour une solution permettant à une Chypre unifiée d'accéder à l'Union européenne se présenta le 10 mars 2003 à La Haye, où Kofi Annan avait invité le président de la République turque du Nord, Denktaş, et le nouveau président grec chypriote, Papadopoulos. Entre-temps, les Nations unies avaient élaboré le plan Annan III, qui avait apporté de nouvelles modifications pour tenir compte en partie des demandes de révision des deux parties. Comme à Copenhague, Papadopoulos n'eut pas à se prononcer à La Haye, Denktaş l'ayant devancé avec son refus. Le 16 avril 2003, Chypre du Sud signait le traité d'accession à l'Union européenne. Un protocole annexé au traité d'accession suspendait l'application de l'acquis communautaire au nord de l'île. Je vais terminer bientôt. Quelques jours seulement après la signature du traité d'accession de Chypre du Sud, la République turque du Nord annonçait la levée des restrictions sur la ligne verte séparant le Nord du Sud, restrictions qui pendant 30 ans avaient empêché les Grecs chypriotes de se rendre au Nord et les Turcs de se rendre au Sud. La réaction à cette initiative a été enthousiaste, au-delà de toute attente. Dans quelques mois, près de deux tiers des Turcs de Chypre visitèrent le Sud et la moitié des Grecs chypriotes le Nord. Ces visites et contacts entre Turcs et Grecs servirent à dissiper dans une certaine mesure les préjugés qui existaient de part et d'autre et de renforcer le sentiment qu'une réunification pourrait quand même servir l'intérêt mutuel. Malgré la signature du traité d'accession à l'Union européenne par Chypre du Sud, Kofi Annan essaya une dernière fois de surmonter l'impasse et de trouver un terrain d'entente entre les deux parties avant l'accession officielle le 1er mai 2004 de Chypre du Sud à l'Union européenne. Deux réunions eurent lieu, l'une à New York et l'autre à Bürgenstock en Suisse. Kofi Annan présenta successivement les plans Annan 4 et 5 qui ne différaient pas substantiellement des plans antérieurs. C'est ce dernier plan qui fut soumis à des référendums séparés au Nord et au Sud le 24 avril 2004. Au Nord, malgré l'opposition du président Denktaş, le Premier ministre Talat et son gouvernement, élu récemment et bénéficiant de l'appui massif de l'opinion publique, faisaient appel pour un oui. Au Sud, Papadopoulos, dans une déclaration télévisée, rejetait les larmes aux yeux le plan Annan. On assistait à un curieux spectacle où Papadopoulos et Denktaş se retrouvaient dans le même camp du rejet. Au Nord, 65% des Turcs votèrent en faveur du plan Annan. Au Sud, 76% des Grecs votèrent non. L'accession unilatérale de Chypre du Sud à l'Union européenne ne manqua pas de créer très vite des problèmes dans les relations de la Turquie avec l'Union européenne. La Turquie était tenue en effet d'étendre à tous les nouveaux membres de l'Union européenne ses obligations en vertu de l'accord d'union douanière de 1995. C'est ce qu'elle était prête à faire et les dispositions commerciales furent mises en application sans délai. Mais les Grecs chypriotes insistaient pour que cette application comporte également la liberté pour les navires et avions battant pavillon grec chypriote de se rendre au port et aéroport de la Turquie. Ce qui créait un problème étant donné que les Grecs chypriotes bloquaient l'initiative de la Commission de l'Union européenne qui permettrait au nord de Chypre d'établir des relations commerciales directes avec l'Union européenne. En dénonçant la position de la Turquie, Chypre du Sud a décidé de bloquer 8 chapitres importants dans le cadre des négociations d'accession de la Turquie. À l'heure actuelle, des discussions ont lieu à Chypre entre les deux présidents, Mehmet Ali Talat et Dimitris Christofias, deux interlocuteurs qui se connaissent depuis longtemps, qui ont partagé la même idéologie et qui se déclarent ouvertement en faveur d'une réunification de l'île. Il n'en reste pas moins que les problèmes qu'ils affrontent ne sont pas faciles. Le plan Annan n'est même pas mentionné dans leurs discussions, mais on ne peut pas inventer chaque fois de nouvelles formules. Les paramètres restent les mêmes. Si l'une ou l'autre partie insiste pour passer outre à ces paramètres, la division de l'île va fatalement se perpétuer avec tous les inconvénients et dangers potentiels d'un tel état de choses. Je vous remercie.
Monsieur Turkmen, nous vous remercions. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Georges Vassiliou.
Merci. Oui, ça va. Oui. Cher professeur Michaud, cher Monsieur Turkmen, dames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de l'Université de tous les savoirs à participer à la discussion d'aujourd'hui avec M. Hilter Turkmen, le distingué diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères de la Turquie, sur la question chypriote. J'espère que cette discussion vous aidera tous à mieux comprendre l'essence de la question chypriote ainsi que les négociations qui se déroulent actuellement en Chypre. J'aimerais également exprimer mon appréciation à l'Université, tout d'abord pour avoir organisé ce cycle de 10 conférences sur la Turquie aujourd'hui et demain, et pour avoir inclus dans ce cycle de discussions spéciales la question chypriote. J'espère que ce cycle de conférences fera émerger une image plus réaliste de la Turquie. Comme vous le savez, la Turquie est à présent candidate à l'adhésion de l'Union européenne, mais elle doit faire face à l'opposition de certains nombres de pays, dont la France. Le but de cette conférence n'est pas de traiter des questions concernées et des raisons pour lesquelles ces différents pays ont adopté leur position. Il importe toutefois de noter que les négociations ont commencé et qu'à la suite de ces longs processus de négociation pour l'adhésion, la Turquie sera, nous espérons, en mesure de renforcer ses institutions et de les rapprocher aux normes de l'acquis communautaire. Je tiens aussi à souligner que nous, Chypriotes grecs, aimerons beaucoup voir la Turquie adopter l'acquis communautaire, surmonter les objections et pouvoir adhérer à l'Union européenne. Et la vérité, c'est que nous sommes certains que c'est impossible pour la Turquie d'être membre de l'Union européenne et d'insister à occuper le nord du pays. Après cette courte introduction, j'aimerais maintenant vous présenter brièvement les problèmes connus sous le nom de questions chypriotes. Je ne vais pas m'occuper avec l'histoire parce qu'il faudra beaucoup de conférences pour arriver là. Je m'occupe simplement et directement avec la situation présente. La question chypriote a acquis son importance et sa signification au niveau international depuis le coup d'État perpétré par la junte militaire grecque et l'invasion ultérieure de l'île par l'armée turque en 1974. La Turquie a occupé alors près de 40% du territoire de l'île, bien qu'ayant déclaré initialement que le but de l'invasion était de rétablir l'ordre constitutionnel. Malgré ça, elle continue d'occuper pratiquement tout le nord de Chypre et y maintenant une armée de 40 à 50 000 personnes. Elle refuse d'ailleurs de reconnaître la République de Chypre, membre de l'ONU depuis 1960 et de l'Union européenne depuis 2004. L'ONU a adopté plus de 100 résolutions soutenant les accords de haut niveau et les besoins urgents de trouver une solution. Mais la question chypriote n'est toujours pas résolue. Heureusement, un nouveau tour de pourparlers a été lancé avec l'élection de M. Christofias à la présidence de la République et j'ai bon espoir que cette fois, les négociations connaîtront une issue heureuse. Je ne vais pas m'occuper avec les détails des négociations. M. Turkmen a parlé de divers aspects. Parce que, comme j'avais déjà dit, et comme vous connaissez, il y en a des discussions sérieuses qui prennent place en Chypre aujourd'hui. Les deux leaders des deux communautés, ils se rencontrent deux fois par semaine et discutent tous les divers aspects. Et vous comprenez que ce n'est pas correct de mon part ou de n'importe quel, de discuter sur quelque chose sur lequel il n'y a pas encore une décision. Il faut attendre qu'ils arrivent et après on peut exprimer son opinion. Et j'espère qu'on va arriver. Le règlement de la question chypriote conduira non seulement à l'éventuel octroi du prix Nobel de la paix aux dirigeants des deux communautés, mais sera également un grand changement pour les communautés internationales et en particulier pour l'Union européenne. Il faut dire ici que quand le fait que Chypre est membre de l'Union européenne, c'est parce que à un certain moment, à Helsinki, en 1999, je crois, un compromis était arrivé entre la Turquie, la Grèce, l'Union européenne, pour qu'on pourra commencer les négociations pour l'adhésion de la Turquie, et en même temps, on n'insistera pas que Chypre ne pouvait pas être membre sans une solution. Ça, c'était le compromis qu'ils ont accepté là, et c'est ça qui a assisté, facilité l'adhésion de Chypre à l'Union européenne, parce que jusqu'à ce jour-là, malheureusement, le parti turc refusait toujours tout accord. Le règlement de la question chypriote conduira à ça, je l'ai déjà dit. Je m'excuse. C'est le problème quand on doit lire quelque chose. Je vais essayer par la suite d'exposer brièvement certains des avantages qu'offre un règlement de la question chypriote aux principaux acteurs. Je commence avec les Chypriotes turcs. La solution est la seule moyenne pour permettre au futur État fédéré turc de devenir membre de l'Union européenne. Au moment d'un accord, automatiquement, Chypre fédéré sera partie de l'Union européenne. Ça veut dire Chypre est déjà membre de l'Union européenne, et du moment qu'elle devient fédérée, l'acquis communautaire sera aussi valable pour les parties qui sont maintenant occupées par l'armée turque. En outre, le protocole 10 de l'accord précise que dans le cadre du traité d'adhésion, il sera possible des négociations de conditions spéciales pour les Chypriotes turcs visant à favoriser leur développement économique. Et ils bénéficieront aussi d'une aide spéciale considérable qui leur permettra de résoudre les problèmes liés au changement de statut et à l'adhésion de l'Union européenne. Toutes les Chypriotes, grecs aussi bien que turcs, bénéficieront aussi de nombreux avantages, notamment les suivants. Le problème des réfugiés sera résolu une fois pour toutes. Des centaines de millions d'euros seront versés pour le règlement du problème de propriété, créant ainsi les conditions favorables à un développement très rapide de l'économie, malgré la crise financière internationale. Chypre, dans son ensemble, pourra remplir son rôle en tant que centre financier, éducatif et médical, ce qui permettra de créer des milliers de nouveaux emplois et de générer un important afflux de capitaux. Le nombre de touristes augmentera considérablement dans les deux États fédérés. On assistera à une hausse rapide des investissements étrangers, puisque les investisseurs profiteront du régime fiscal spécial très avantagé et se sentiront en sécurité absolue. Nous résoudrons enfin les problèmes de pénurie d'eau et d'énergie par des conduites sous-marines reliant la Turquie et Chypre. Chypre réunifiée pourra contribuer au règlement de divers autres problèmes dans sa région. Ça sera un exemple, si vous voulez, comment il faut résoudre des problèmes. Je suis raisonnablement optimiste à propos des perspectives d'un règlement parce que Chypre est à présent membre de l'Union européenne. Des questions qui auraient entraîné des discussions illimitées et éventuellement conduit à l'échec ont été résolus au sein de l'Union européenne, comme par exemple le respect des droits de l'homme et la mise en œuvre de 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Il est également extrêmement important que tous les citoyens de l'Union européenne se sentent et soient en sécurité. En réalité, pour moi, quand je eu toute cette discussion, l'aspect le plus important, c'était cette question de sécurité. Et l'Union européenne garantit la sécurité de tous les États membres et aucun pays étranger n'a jamais pensé à les menacer. J'ai écouté bien tout ça que M. Turkmen a dit sur les questions de traité de garantie, etc. Mais il faut comprendre que avec l'accession de Chypre à l'Union européenne, ce traité de garantie ne dit rien. C'est impossible d'imaginer qu'un pays, un troisième pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, aura la nécessité de garantir la sécurité d'un pays membre de l'Union européenne. C'est Non, je n'ai pas terminé. En outre, parce que Chypre est membre de l'Union monétaire européenne et la monnaie chypriote est l'euro, comme la monnaie française, les Chypriotes turcs ne craindront pas de faire l'objet de discriminations quelconques. Les décisions en matière de stabilité de la monnaie, aussi bien que de surveillance du secteur bancaire, assurance et services financiers, ne seront pas prises unilatéralement par les Chypriotes grecs ou les Chypriotes turcs, mais à Francfort pour l'Europe dans son ensemble. Et contrairement à tous les avantages précisés, et bien d'autres encore, j'aimerais souligner les nombreux désavantages que comportera un échec des négociations entre les deux communautés. Je commence par les Chypriotes turcs. Dans un tel cas, ça veut dire dans un cas d'échec, les Chypriotes turcs resteront tels qu'ils sont à présent, isolés, sans reconnaissance internationale et incapables d'adopter une politique économique indépendante, puisque l'économie est virtuellement pleinement intégrée dans celle de la Turquie. Ils souffriront l'inflation, du manque d'investissement étranger, de l'absence d'une structure juridique bien définie et reconnue sur le plan international, ne pouvant pas exporter des produits illégalement, etc. Vous comprenez ainsi que le statu quo est inacceptable et ne peut pas être une alternative. Cela est également la position de la communauté internationale. Pour les Chypriotes grecs, il y a aussi de nombreux points négatifs. Ils ne pourront pas bénéficier des avantages précités. Il y aura toujours un sentiment d'incertitude qui se verra renforcé par le fait qu'une proportion importante de propriétés dans les régions contrôlées par le gouvernement, 14% du total, appartient à des Chypriotes turcs. Et en cas de non-règlement, rien ne pourra empêcher ces Chypriotes turcs de venir dans le sud et revendiquer la possession de leurs biens. D'autre part, malheureusement, les Chypriotes grecs n'auront pas la faculté de revendiquer leur propre propriété dans le nord, puisque sans solution, cela est impossible. De surcroît, il n'y aura aucune restriction quant au nombre de Turcs autorisés à venir s'installer dans le nord. Déjà, il y a environ 100 000 Chypriotes turcs contre 100 à 150 000 Turcs. Vous comprenez que déjà, les gens qui viennent de la Turquie sont en majorité dans le nord et sans solution, le nombre de colons pourra augmenter considérablement avec de graves répercussions pour tous les Chypriotes. Les Chypriotes turcs et aussi les Chypriotes grecs. Aux Nations Unies, le premier ministre turc, M. Erdogan, a souligné la nécessité de parvenir à une solution avant la fin de l'année. Nous, les Chypriotes grecs, soutenons pleinement une telle perspective. Je vous dis ici que moi, je suis connu comme l'homme qui a dit. Je vous dis l'histoire, la vraie histoire. Quand j'étais élu président, j'étais allé à Londres et pendant la première conférence de presse que j'avais donnée là, un journaliste m'a demandé « Mais monsieur le président, je comprends que vous, Chypre grec, vous ne voulez pas une solution. » Et je lui ai répondu « Nous, Nous voulons une solution hier. Après ce jour-là, tous les gens sachent que nous voulons une solution hier et moi, je suis monsieur hier. Pour arriver malheureusement à une solution d'ici, là, dépend entièrement des positions soutenues par la Turquie. Je ne mentionnerai que trois questions fondamentales à propos desquelles une approche différente de celle adoptée jusqu'à présent par M. Talat avec l'appui de la Turquie pourrait fortement contribuer à l'obtention d'une solution. Nous, les Chypriotes grecs, avons réalisé, après les événements de 1974, qu'il était impossible de revenir à un État unitaire. Ainsi, l'archevêque Makarios et M. Dektash ont signé les accords de haut niveau de 1976, stipulant que Chypre deviendrait une fédération bicommunautaire et bizonale. Il s'agissait là d'une concession très importante de notre part, soutenue depuis dans toutes les résolutions de l'ONU. Malheureusement, le parti turc veut en réalité une confédération. Ça veut dire deux pays indépendants qui coopèrent entre eux. Et chose qui est contraire à toutes les résolutions de l'ONU est totalement inadmissible. Deuxième, à présent, près de 40% du territoire et 60% du littoral sont occupés par l'armée turque, bien que les Chypriotes turcs ne représentent que 18% de la population. De toute évidence, une solution équitable impliquerait que les villes de Famagouste et de Morfou, ainsi qu'une proportion importante d'autres régions, fassent partie de l'État fédéral chypriote grec, permettant ainsi le retour de 100 à 120 000 réfugiés. Troisième, toutes les propriétés chypriotes grecques situées dans le nord, et on parle ici de presque 90%, 85%. Alors, toutes les propriétés chypriotes grecques situées dans le nord sont actuellement exploitées par les Chypriotes turcs et les Turcs. La nécessité de leur restitution à leurs propriétaires légitimes est évidente, et c'est aux propriétés légitimes c'est eux qui vont décider alors s'ils veulent les vendre, les louer ou les conserver. Enfin, la Turquie sera également la grande perdante en cas d'échec de négociations. Elle ne pourrait pas jouer les rôles importants qui justifient sa position géostratégique. Elle perdra tous les avantages des relations publiques qu'elle a gagné en approuvant le plan en an, et plus important encore, l'espoir et les efforts considérables qu'elle a déployés jusqu'à présent en vue d'atterrir un jour à l'Union européenne. Par conséquent, nous serons tous perdants en cas d'une non-solution. Mais avons beaucoup à gagner avec une solution. Espérons que le bon sens l'emportera. Merci.
Alors d'abord, messieurs, merci de cet exposé des thèses, des positions et des situations. Et vraiment un grand merci, parce que je crois que nous avons tous compris beaucoup de choses, y compris sur la nécessité des psychiatres. Et donc maintenant, nous allons passer aux questions. Indiquez à qui des deux orateurs vous adressez votre question, s'il vous plaît. Essayez d'être clair dans une situation compliquée. Voilà, merci. Alors, il y a une dame là en bas. Manifestez-vous, parce que un peu d'avance, que je vois un petit peu comment ça se passe. Ici, tout en bas, madame. Attendez, on vous donne un micro.
Bonsoir, je suis chypriote grecque tékérine et pas tékérine, comme vous avez changé le nom de village de ville. Et vous avez parlé au niveau du plan. Le plan a été rejeté par le chypriote grec parce que la militaire turque pourrait intervenir n'importe quel moment à Chypre. Les réfugiés, on ne pouvait pas non plus retourner chez nous. Et troisièmement, c'est que au nord de Chypre, c'est toujours illégal et l'armée est toujours stationnée là-bas. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle se retire. Moi, je vais retourner chez moi à Kérignan. Je ne désire pas, mais j'exige.
Non, je vais dire simplement que le plan Annan, qui a été approuvé par les Turcs chypriotes et rejeté par les Grecs chypriotes, envisageait le retrait de toutes les forces turques, excepté un contingent de 650 personnes. Donc, si le plan Annan avait été approuvé par les Grecs également, l'armée turque avait déjà commencé son retrait de l'île de Chypre.
Bon, je pense que de toute manière, non, on ne va pas poursuivre, je pense que de toute manière, le problème des restitutions immobilières et du retour des réfugiés est considérable. On l'a bien perçu, on va passer à une autre question, hein, je veux dire, parce que je ne pense pas qu'on nous le résoudrons, je pense pas que nous le résoudrons ce soir. En haut, là-haut, mademoiselle. Non, vous m'avez fait signe. Passez la parole à quelqu'un. Non ?
C'est qui ?
Alors, bon, alors, Céline. Voilà.
Oui. Bonsoir. Je veux poser la même question aux deux intervenants ce soir. Je voudrais savoir exactement quel était le pourcentage et le nombre des chypriotes turcs avant l'occupation de l'armée turque et quelle est après et quel était le motif de l'émigration des jeunes turcs, des familles ou des sur Chypre, la Chypre du Nord.
Oui.
Peut-être sur la population, Monsieur Vassiliou, oui. Puis ensuite sur les Turcs, Monsieur Turkmen.
La population chypriote turque était 82 000. Et la population chypriote grecque était presque 700 000, 650. On parle quand l'invasion a pris place, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime, on n'a pas de chiffres officiels, que le nombre de chypriotes turcs dans le nord est presque 100 000. Mais comme je l'ai déjà dit, le nombre de colons est beaucoup plus grand. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? À mon avis, il y a deux raisons. Il y avait des gens qui croyaient que peut-être ils vont gagner beaucoup plus s'ils viennent en Chypre, prendre le territoire qui appartenait aux Chypre grecs sans payer, etc. Mais à mon avis, il y avait aussi une politique bien étudiée dans les détails de la part de la Turquie pour envoyer là un grand nombre de personnes et changer la composition démographique de l'île. Et c'est pour ça que je vous avais dit que s'il n'y aura pas un agrément, alors on ne peut pas garantir le futur de l'île. C'est pour ça une des plus grandes raisons d'insister à trouver un règlement, c'est parce que en Chypre, c'est mieux si c'est les Chypriotes qui habitent, et il y aura aussi naturellement un grand nombre de Chypriotes turcs, des Turcs et des autres personnes, etc., etc. Mais en tout cas, la grande majorité doit être les Chypriotes, comme en France, vous avez beaucoup d'immigrés. Mais la grande majorité, c'est les Français.
Monsieur Turkmen, sur la même question.
Je crois, sur les chiffres, d'après ce que je sais, les Turcs chypriotes sont de à peu près 120 000 et les Grecs chypriotes 700 000. Je crois que les chiffres ne sont pas très éloignés les uns des autres. En ce qui concerne ceux qui sont venus de Turquie, le nombre, officiellement, c'est à peu près 45 000. Et le plan Annan, et je le répète, qui a été approuvé par les Turcs et rejeté par les Grecs, est stipulé que 45 000 Turcs venus de Turquie pourraient acquérir la nationalité du nouvel État, la nationalité chypriote. Et je crois savoir également, le président Vassiliou pourra me justifier ou non, je crois savoir que déjà le président Christofias a accepté qu'un nombre d'à peu près 50 000 pourrait obtenir la nationalité chypriote, la nouvelle nationalité chypriote. Donc, les autres ne vont pas obtenir la nationalité chypriote. Je crois que c'était le plan Annan comportait beaucoup de dispositions qui étaient favorables aux deux parties. C'est pour cela que j'insiste pour que nous souvenions que ce n'est pas les Turcs qui l'ont rejeté, mais les Grecs.
Ici, à droite.
Attendez, je voulais une précision avant. Une précision de M. Vassiliou.
C'est vrai que les plans Annan, les derniers plans Annan qui étaient proposé n'était pas accepté par les Chypriotes grecs. Mais aussi vrai qu'avant ça, il y avait au moins 5 plans des Nations Unies qui étaient rejetés par M. Denktaş à ce temps-là et par la Turquie. Et en réalité, les plans en an avaient quelques avantages, mais aussi il y avait beaucoup de problèmes qui causaient d'inquiétude aux Chypriotes grecs. Je vous parle, moi, que j'étais pour les plans A en disant que malgré ces deficiencies, malgré ces défauts, dans le cadre de l'Union européenne, on pourra résoudre les problèmes dans l'avenir. Mais ça, ce n'était pas l'opinion de la majorité de la population parce que ça suffit de regarder sur une map, sur une carte de la région, pour comprendre que la Turquie est tellement grande et Chypre est tellement petit. Et alors, les gens avaient peur. Ils voudraient se sentir plus en sécurité. Et à mon avis, c'est ça qui était l'élément le plus important pour lequel les gens ont rejeté les plans. Mais comme j'ai déjà dit, les discussions maintenant, on espère qu'ils vont arriver à trouver des solutions qui seront acceptables à tous les gens, parce qu'autrement, nous allons tous pas perdre.
Je peux dire quelque chose? Attends, oui, allez-y.
Ce sera très court. J'ai d'ailleurs beaucoup d'estime pour le président Vassiliou, et je crois qu'il a raison quand il dit que si même le plan Annan avait beaucoup de défauts, une fois que les Turcs et les Grecs seraient ensemble dans l'Union européenne, beaucoup de problèmes seraient beaucoup plus faciles à résoudre. Il a mentionné également le fait que ce sont les Turcs qui ont rejeté le plan Annan avant 2004, avril 2004. Oui, ce n'était pas quelque chose qui a contrarié les Grecs, je pense. Je pense qu'à l'époque, le président Papadopoulos était ravi.
Poursuivons là. Soyez bref, parce que je vois que vous avez un papier, mais ça ne vous empêche pas d'être bref.
Alors, j'avais une question à M. Georges Vassiliou. Je voulais vous demander, est-ce que vous niez le fait que les troupes turques sont arrivées en Chypre suite à des massacres qu'a connu la minorité turque de l'île? Et si vous rejetez ça, quelle est votre explication pour l'arrivée des troupes turques sur l'île de Chypre?
Vous avez voulu dire minorité turque ou minorité grecque?
Minorité turque.
Turque, d'accord.
Très bien. Oui, écoutez, il y avait une période en 1963 quand les bandes, si vous voulez, armées grecques, chypriotes grecques et chypriotes turcs étaient à diverses formes de combat. Ce n'était pas armée officielle. Et nous sommes tous contre tout ça qui est arrivé à ce temps-là. Mais après, l'archevêque Makarios, qui était le président de Chypre, avait fait son fameux discours avec lequel il disait qu'il faut accepter ça qui est possible et pas ça qu'on désire avoir. Ça veut dire, tous les Chypriotes grecs, jusqu'à ce temps-là, voudraient l'union avec la Grèce. Mais lui, il a dit, ça c'est impossible. Alors, il faut accepter la perspective de vivre ensemble dans le cadre d'une fédération. Malheureusement, à ce temps-là, en Grèce, il y avait une junta militaire. Et ils ont décidé que Makarios était un traître et ils ont organisé les coups d'État contre lui. Et l'armée turque était venue après les coups d'État de la junta grecque et j'ai déjà dit ça. Mais la Turquie savait très bien qu'elle n'avait aucun droit de venir et occuper pour toujours. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, nous sommes venus, mais seulement pour reconstituer l'ordre constitutionnel. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus, ils ont occupé le nord de l'île, où la majorité était toujours grecque, presque 90%. Ils ont expulsé tous les Grecs de là, et ils ont obligé, en réalité, les Chypriotes turcs qui habitaient le sud de l'île, de venir dans le nord. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, comme ça qu'ils ont fait la division des populations, si vous voulez dire. Mais je répète, ça ne vaut pas la peine et ça n'assiste pas de s'occuper avec l'histoire. Ce qui est plus important, c'est de se mettre d'accord maintenant, parce que ça, c'est, comme on dit en anglais, a win-win situation.
Voilà. Gagnant-gagnant.
C'est gagnant-gagnant.
Ça vous rappelle quelque chose, je suppose.
Monsieur le Président, je m'adresse à Monsieur Vassiliou. Je sais que l'île de Chypre a un excellent climat, un très bon climat. Oui. Je ne voudrais pas perturber ce climat. Mais ceci dit, je voudrais savoir comment se fait-il, dans les Nations Unies, nous avons quelques crimes contre l'humanité, quelques crimes de guerre. Alors, un de ceux-là, c'est le génocide. Le deuxième, c'est l'épuration ethnique. On l'a vu en Yougoslavie avec la Bosnie. Oui. Alors, je voudrais savoir pourquoi on n'appelle pas la colonisation par les 100 ou 150 ou 200 ou 300 000 Turcs venant de la Turquie comme épuration ethnique et justement porter cette question aux Nations Unies. Merci.
Vous répondrez tous les deux. Hein, ouais.
Les deux orateurs répondront.
Hein. À mon avis, ça c'est bien connu. Et si nous voulons que cette discussion aujourd'hui est profitable pour tous, c'est mieux de s'occuper avec ça qu'il va venir qu'avec ça qu'il est passé.
Allez-y.
Le président Vassiliou a dit, il vaut mieux que je me taise.
Bon, nous allons prendre encore deux questions, une au centre et une en haut. Hein ?
Oui, bonsoir. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur les racines historiques du conflit, et parce que je constate que dans les années avant l'invasion turque, on constate sur les cartes qu'il y avait une mixité village turc, village grec. Les populations semblaient vivre dans une espèce de coexistence. Et donc je voudrais savoir un petit peu ce qui s'est passé. En plus, vous avez parlé du rôle de la Grande-Bretagne qui aurait divisé pour régner. Donc je voudrais qu'on revienne sur ces racines. C'est toujours assez éclairant après pour comprendre ce qui s'est passé. Et peut-être que les populations elles-mêmes sont victimes de la raison d'État, entre guillemets.
Alors, est-ce que c'est la faute des Anglais ?
Une réponse très courte. Malheureusement, cher monsieur, le nationalisme extrême, c'est le pire de toutes les choses. Avant, les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs vivaient dans les mêmes villages, partout, et les relations entre les deux communautés étaient très amicales. Mais malheureusement, le nationalisme, à un moment, il a gagné. Et il faut dire franchement que pour les Chypriotes grecs, le fait que partie de la population grecque, c'était 82%, et la partie de la population chypriote turque était 18%, ils considéraient que c'est une île grecque finie. Les Chypriotes turcs n'acceptaient pas ça. Ils disaient, peut-être nous sommes 18%, mais nous disons que c'est aussi une île turque, si vous voulez. Et c'est ça qui a donné à des conflits et qui ont... Ça ne vaut pas la peine de répéter tout ça qui est arrivé à cet endroit. Mais le fait est que dans les... cadre réaliste, c'est pour ça qu'archevêque Makarios a été un grand leader, parce qu'il avait l'habilité d'être... D'abord, il était en faveur de l'union avec la Grèce, et après, il a vu que ça, ce n'est pas un bout réaliste. Et c'est pour ça qu'il a accepté ça que je lui ai dit. Ce n'est pas ça qu'on désire dans toute la vie et partout. Ce n'est pas ça qu'on désire qu'on fasse, mais ça qu'on peut faire. Parce que si vous voulez faire ça que vous désirez, je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé ici. Et espérons que cette fois-là, on va faire ça qu'il est possible et que les deux communautés vont vivre ensemble et en paix dans le cadre de l'Union européenne.
Monsieur Turkmen, quelques mots.
Et naturellement, je ne vais pas accuser la Grande-Bretagne, mais c'est vrai que autant de... où Chypre était une colonie britannique, les Anglais avaient une certaine politique. Je crois que l'exemple le plus significatif, c'est que Papadopoulos, qui est devenu ensuite président, représentait ceux qui se révoltaient contre les Britanniques pour l'Enosis, et Dinktash représentait le gouvernement colonial. Alors, il y avait des intérêts, déjà, ces intérêts étaient en collision à l'époque. Donc, les Britanniques ont un certain rôle. Il ne faut pas aller très loin dans cette question-là, mais ils avaient un certain rôle. Et puis, il faut dire que, naturellement, ce qui a surtout provoqué les Turcs, c'était cette politique d'Enosis. Les Turcs chypriotes n'avaient jamais vécu sous une souveraineté grecque. L'énosis voulait dire qu'il serait une minorité soumise au gouvernement d'Athènes. Il ne voulait pas cela. Et puis la Turquie ne pouvait pas accepter cela parce que, comme je l'ai déjà fait remarquer, il y avait le traité de Lausanne qui a établi un équilibre très délicat entre la Turquie et la Grèce. Si l'énosis était réalisé, cela aurait signifié la rupture de cet équilibre. Donc, il faut voir les choses dans la perspective historique. Et puis, il faut dire aussi que la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de problèmes, c'est que Makarios, quand il était président de Chypre, a décidé de demander soudainement un amendement de la Constitution, en vertu duquel les droits de la communauté turque reconnu par les traités de 1960, sous la garantie de la Grèce, de la Grande-Bretagne et de la Turquie, elle était très diminuée. Donc, il y a eu naturellement un ressentiment à cet égard. Et les événements, quand ils ont commencé à la fin, en décembre 1973, ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par des attaques des militants grecs contre les Turcs. Il y a beaucoup de Turcs qui ont été tués à cette époque-là. Et donc, on peut parler de l'histoire indéfiniment, mais je crois que, comme l'a dit M. Vassiliou, il faut regarder l'avenir, parce que en reparlant de toutes ces questions du passé, nous n'arriverons nulle part.
Alors, nous prenons une dernière question. Monsieur Lahou, vous avez une lourde responsabilité.
Monsieur Turkmen, je voudrais juste vous poser la question suivante. Vous ne pensez pas que l'évacuation des troupes turques de Chypre et les négociations entre chypriotes turcs et chypriotes grecs sous l'égide de l'ONU faciliteraient de façon énorme les problèmes chypriotes?
Oui, je l'ai déjà dit. Le plan Annan envisageait le retrait des troupes turques. Pardon?
18 ans.
Pas 18 ans, pas tellement. Non, c'est pas vrai. C'était une diminution, une diminution graduelle. Mais en fin de compte, toutes les troupes turques, excepté une compagnie de 650 personnes, allaient être retirées. Vous dites 18 ans, mais le problème n'était pas seulement le retrait des forces turques, parce qu'il y avait aussi le désarmement des Grecs chypriotes. C'était également dans le plan Annan. Chypre n'aurait plus. Chypre, qui a aujourd'hui une Chypre du Sud, qui a aujourd'hui une armée de 17 000, serait obligé de démobiliser toutes ses troupes et d'envoyer les matériels qui étaient à la disposition de ses troupes à l'extérieur. Donc, il y avait un certain équilibre là-bas. On peut peut-être raccourcir le délai, mais enfin, le principe était là. Dans le plan Annan, les troupes turques allaient se retirer.
En tout cas, dans les cadres de l'Union européenne, on n'a pas besoin des armées turques en Chypre. C'est simple.
Bien, nous allons nous en tenir là. Remercions nos conférenciers. De nouveau.